Bonsoir. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région riche en vestiges archéologiques. Les grandes villes telles que Marseille, Nice, Arles ou Antibes ont été créées à l'Antiquité. Et on parle moins du Moyen-Âge, pourtant une période importante aussi. Les citoyens, lors de leurs déplacements touristiques, visitent un site et ou un autre ou un musée, mais ces visites ne sont pas organisées selon les périodes et il nous semble qu'il manquait un guide, justement, pour organiser ces visites en fonction des centres d'intérêt et des périodes, et donc mieux connaître les différents sites. Mes invités, archéologues, scientifiques, ont travaillé en ce sens pour permettre des visites plus organisées. Les éditions Mémoire millénaire ont édité des guides par période. Les sites préhistoriques, les sites antiques et de l'Antiquité au Moyen-Âge. C'est de ces trois guides que je vous propose de parler avec mes invités. Donc Bertrand Roussel, Éric Delaval et Marc Bouiron. Marc Bouiron qui est au téléphone. Donc je vais vous demander de bien vouloir vous présenter.
Alors je commence, je m'appelle Bertrand Roussel. Je suis le directeur des musées d'archéologie de la ville de Nice. Donc deux musées, le musée de préhistoire de Terra Amata sur le port de Nice et le musée d'archéologie de Nice-Cimier sur la colline de Cimier.
Et le musée des merveilles, il ne dépend pas de vous.
Alors, le musée des merveilles, c'est un musée départemental qui fait partie donc du département et qui se trouve à Tende.
Oui. Et donc, il ne dépend pas.
Et non.
Là, voilà, j'imaginais que c'était aussi qu'il y avait un pactage global avec le musée des merveilles.
Pas encore.
D'accord. Éric.
Donc, je m'appelle Éric Delaval. Je suis spécialiste de l'Antiquité romaine et particulièrement des villes. J'ai travaillé sur un quartier de la ville romaine de Lyon, sur lequel j'ai fait ma thèse d'ailleurs. Ensuite, je suis parti sur un site qui est aussi un quartier d'une ville romaine un peu au sud de Lyon, qui est Vienne. Et puis, grand déplacement en Normandie. Parce qu'il y a des Romains en Normandie, hein. Il n'y avait pas que du médiéval. Et là, je me suis occupé d'un site, de fouiller un site au sud de Caen et de créer un musée. J'ai commencé à mettre assez sérieusement les pieds dans l'univers des musées. Et enfin, j'ai effectué une grande diagonale qui m'a amené depuis Vieux, la Normandie, depuis Caen jusqu'à Antibes, où j'ai dirigé pendant de nombreuses années le musée d'archéologie. Et maintenant, depuis l'année 2022, je m'occupe de patrimoine historique au sens large pour la ville d'Antibes.
Très bien. Alors Marc, il nous rejoindra tout à l'heure au téléphone. Alors, j'ai envie de poser une question préalable. Comment on devient archéologue? J'ai l'impression que c'est un métier, une passion, qui vient de l'enfance. Cette curiosité pour tout ce qu'on peut trouver n'importe où, là, voilà. Comment on devient archéologue?
Alors, ça dépend. Il y a beaucoup de réponses à cette question. En ce qui me concerne, je me suis depuis petit intéressé aux questions liées au patrimoine et aux questions liées à la culture et principalement au patrimoine. Il faut dire que je suis né dans une ville qui est un joyau en matière de patrimoine, c'est Arles. Et c'est vrai que au début, je m'intéressais beaucoup à tout ça. Et petit, je voulais m'occuper du Moyen-Âge, curieusement. Et il s'est trouvé que, dans le cadre de mes études, j'ai rencontré la discipline qui est la préhistoire, donc l'histoire des hommes avant l'invention de l'écriture, et ça m'a paru particulièrement intéressant, et c'est comme ça que finalement je me suis plutôt spécialisé dans la préhistoire plutôt que le Moyen-Âge.
Éric ?
Oui, alors moi aussi, c'est l'enfance. Hein. J'avais un père qui avait un métier qui faisait qu'on se déplaçait un petit peu partout en France, et il m'emmenait avec ma mère visiter des châteaux forts. Donc je suis venu, c'est quelque chose qui est très immédiatement perceptible quand on est enfant. Et donc je me suis promené dans la région parisienne sur les châteaux forts comme Coucy ou le château de Pierrefonds qui a été restauré par Viollet-le-Duc, qui est tout à fait exceptionnel. Et voilà, donc petit à petit, je suis venu à l'archéologie, mais d'abord par l'archéologie médiévale. Et d'ailleurs, ma maîtrise était en archéologie médiévale avant que je me destine à une carrière d'antiquisant.
D'accord. Bon, c'est marrant parce que vous avez tous les deux l'archéologie médiévale avant plus précis. Alors, vous pouvez nous donner un peu, on y reviendra après, guide par guide, mais situé dans le temps, comment ce qu'on a la préhistoire, c'est de camp à camp, l'Antiquité de camp à camp, et puis on verra le Moyen.
Alors la préhistoire, c'est pas très compliqué. En même temps, c'est difficile. C'est-à-dire la préhistoire, c'est l'histoire de l'homme avant l'invention de l'écriture. Donc quand on a dit ça, on a donné une définition qui pas trop mal. On va dire que l'apparition de l'écriture, c'est autour, on va dire, de 3000 ans avant Jésus-Christ, mettons. Et puis, de l'autre côté, c'est l'apparition de l'homme. Alors, l'apparition de l'homme, c'est plus compliqué à définir, hein, parce que il va falloir dire qu'est-ce qu'un homme. Mais bon, on va dire que les premiers intérêts, c'est avec les fossiles qui se montrent être des bipèdes. Donc, par exemple, Toumaï, vers 7 millions d'années. Donc, on pourrait dire que la préhistoire, ça commence là. Et puis, que ça se met en place petit à petit, vers 3 millions d'années, avec les premiers outils.
Et l'Antiquité ?
Alors, l'Antiquité, alors, dans l'acception qu'on a retenue, nous, on a pris ce qu'on appelle la proto-histoire, donc, et puis l'époque romaine. Donc, c'est tout ce qui se situe entre la fin de la préhistoire et l'époque médiévale. Donc, on est grosso modo vers 3000 avant Jésus-Christ, c'est l'époque où il va y avoir l'âge des métaux. Et puis, on est donc 3000 avant Jésus-Christ, on arrive jusqu'au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est quand même plus de 1000 ans d'occupation.
Alors, pourquoi ces guides ? Parce qu'il y a beaucoup de guides touristiques. Mais là, ce sont des experts, c'est vous, qui guident les visiteurs. Donc, pourquoi tout d'un coup ce besoin de faire des guides, je dirais voilà. Et puis, comment ils sont construits ? Pour moi, ce que j'ai vu, c'est que vous avez vos coups de cœur, des éléments donc indispensables pour explorer. Et puis, à côté de ça, une visite un peu classique, quoi, qu'on retrouve dans le guide du routard, tout ça. Donc, en fait, pour moi, ce que j'ai vu, c'est que vous complétez, en termes scientifiques, je dirais, le guide du routard qui va nous dire allez visiter le musée Terra Amata ou allez visiter. On peut le présenter comme ça ?
Alors, l'idée, l'objectif, en tout cas pour la partie préhistoire, c'est que finalement, on a deux types. Et comme vous le soulignez très bien, on a deux types de sites. On a les sites qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qui sont soit des musées, soit des sites ouverts au public de façon, mettons, payante, etc., organisée. Et puis on peut avoir des sites qui vont se trouver pour la préhistoire dans la nature. Je vais prendre l'exemple de dolmens qui ont pu être fouillés au 19e siècle ou au début du 20e siècle et qu'on va trouver dans la nature au-dessus de Grasse, par exemple. Donc ça, il n'y a pas forcément la possibilité d'avoir pignon sur rue pour pouvoir les visiter. Pourtant, c'est intéressant, ça permet de compléter les sites qui, eux, ont pignon sur rue, comme les musées et les sites archéologiques ouverts au public.
Donc, en fait, c'est élargir le champ des visites possibles aussi.
Oui, puis on fait part des dernières connaissances sur ces sites. Puis il y a des sites qui sont anciens, effectivement, connus depuis longtemps, mais on apporte les dernières données. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on apporte aussi une iconographie. L'iconographie qu'on a constituée, nous, chercheurs, qu'on ne peut pas avoir forcément quand on n'est pas spécialiste. Donc des photos, des plans, des voilà, donc c'est quelque chose d'assez approfondi, mais qu'on a voulu quand même conserver de manière ludique, quoi, et attractive, que ce soit.
Alors,
agréable à lire.
On reprend. Donc, il existe donc trois guides. Le guide des sites archéologiques, le guide des sites antiques et le Moyen-Âge. On va commencer, moi je prends dans l'ordre chronologique, on va commencer par la préhistoire. Donc, on a vu, on date la préhistoire du premier homme. Donc, vous partez quand même des dinosaures, 65 millions d'années, jusqu'à ce que le singe devienne homme, 7 millions d'années, c'est ce que j'ai relevé. Donc, en fait, on situe la première présence humaine.
Voilà. L'idée, c'est de mettre en perspective, alors on parle des dinosaures souvent parce que, ben justement, il y a quelque part quelques idées reçues sur la préhistoire, comme quoi l'idée que les hommes et les dinosaures aient pu être, vivre ensemble. Donc là, on montre bien qu'il y a un hiatus de 60 millions d'années entre la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années et l'apparition des hommes, on va dire, entre 7 et 3 millions d'années. Et l'arrivée des hommes en Europe, peut-être c'est à ça que vous faites allusion, qu'on va pouvoir dater d'à peu près 1,5 million d'années, avec des sites comme la grotte du Vallonnet, par exemple. Hein. Mais il y a d'autres sites en Italie et en Espagne qui permettent, et même en France, qui permettent d'entrevoir l'apparition de l'arrivée de l'homme en Europe.
Et donc, chaque fois qu'il y a des découvertes, ça vous permet de dater aussi, de situer dans le temps. Bon, quand on parle d'après-histoire, on dit, bon, ils étaient chasseurs, ils sont devenus agriculteurs, ils sont sédentarisés. Bon, en gros, on a ça. Mais tout ce que vous trouvez permet de mieux dater tout ça.
Chaque site qui est fouillé permet d'amener des informations complémentaires et donc va permettre de, comme vous le disiez, de créer, de raconter l'histoire, le comportement et le mode de vie des hommes depuis leur arrivée sur la Côte d'Azur, pour ce qui nous concerne, dans leur arrivée dans la région PACA, jusqu'au néolithique, effectivement, au moment où les hommes vont pouvoir commencer à se sédentariser d'une part, mais surtout à changer de mode de vie, à devenir des agriculteurs éleveurs, comme nous sommes encore aujourd'hui.
Et donc, l'écriture, la place de l'écriture, parce que l'écriture, ce que vous appelez l'écriture, en fait, quand on est les roches gravées ou la grotte de Coster, c'est ça l'écriture pour vous ?
Alors, ce qu'on va trouver dans l'art préhistorique, notamment dans l'art paléolithique, l'exemple, bien sûr, c'est la grotte Coster en PACA, mais certains pensent à la grotte Chauvet également, ou bien d'autres. Donc, ces grottes-là sont des représentations, présentent des représentations graphiques. Est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, parler d'une forme d'écriture ? C'est compliqué. Aujourd'hui, il est bien difficile de déterminer de façon très nette et absolument certaine ce que les hommes ont voulu faire en allant au fond de ces grottes. Est-ce que c'était transcrire des messages ? Par exemple, aujourd'hui, on a l'idée que peut-être c'était des représentations de mythes qui étaient présentées là, dans ces grottes. C'est un peu une nouvelle hypothèse qui se fait jour en ce moment. Bien, c'est possible, mais c'est pas réellement ce que nous on va appeler une écriture, parce qu'il n'y a pas l'itération de symboles qui vont pouvoir être présentés de façon itérative, et on va avoir plutôt quelque chose qui pourrait être considéré comme une sorte de représentation graphique de type artistique, où on va trouver notamment, pas que, mais notamment des formes figuratives, des animaux, des hommes, des signes qui sont représentés. La raison pour laquelle ils représentaient tout cela n'est malheureusement pas connue à l'heure actuelle de façon certaine.
Est-ce que vous appelez la proto-histoire alors ?
Alors la proto-histoire, en gros, bon, je vais donner une définition, je parle sous le contrôle d'Éric et Marc, mais on va donner une définition simple, de dire que finalement, à partir du moment où l'écriture est découverte en Mésopotamie et en Égypte, on va quitter un peu la préhistoire. Mais l'écriture, pour nous, dans la région, eh ben, elle n'arrive pas, elle arrive plus tard. Et cette période, finalement, un petit peu intermédiaire, qui correspond en gros à l'âge du bronze, à l'âge du fer, ben, c'est ce qu'on a coutume d'appeler la proto-histoire.
D'accord. Alors, dans la région.
Donc, à peu près le premier millénaire avant Jésus-Christ. Nous, on fait démarrer dans le guide à partir de la fin du 7e siècle et on va jusqu'à l'époque romaine.
D'accord.
Accord à côté sur.
Alors, si on reste maintenant dans la région, vous situez quand et où vous situez les premiers hommes, les premiers sites qui ont permis de trouver, de dater la présence des hommes.
Alors clairement, l'arrivée des hommes dans notre région PACA, on va la trouver à Roquebrune-Cap-Martin. On va la trouver dans une petite grotte qui s'appelle la grotte du Vallonnet. Et dans cette petite grotte du Vallonnet, on a trouvé la présence à la fois d'animaux comme les hyènes et des grands carnivores qui résident dans cette grotte, mais en même temps, on a aussi trouvé c'est notamment Henri de Lumley et Pierre-Élie Moulet qui ont conduit les fouilles dans cette grotte, qui ont trouvé des restes d'outils, c'est-à-dire d'objets fabriqués par les hommes, et notamment des petits éclats de silex. Et le petit éclat de silex, c'est pas la hyène géante qui a fabriqué le petit éclat de silex. Donc là, on a la certitude, par la présence de ces outils façonnés qu'il y a eu des hommes. Malheureusement, on n'a pas trouvé leurs restes. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé les os humains des gens qui ont fabriqué les outils que l'on trouve dans cette grotte.
Et ça, ça aurait permis de dater plus précisément ?
Non, les datations sont assez fiables. Il y a eu des datations qui ont été refaites par des méthodes de datation absolue. Donc ça, on a une datation, mais on n'a pas l'auteur, si vous voulez. On n'a pas l'homme ou la femme qui a fabriqué les outils. Donc on n'a pas trouvé ses restes.
Alors à Nice, j'ai vu qu'il y avait plusieurs sites qui sont en relation à des époques différentes. Donc c'est plus étonnant, puisque nous, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, ils ne se déplaçaient plus. Puisque après s'être beaucoup déplacés, ils sont sédentarisés et qu'ils avaient peu de relations avec l'extérieur. Donc sur Nice, on a trouvé plusieurs sites qui sont à des époques un peu différentes. Parce que quand on est à 7 millions d'années, effectivement, on peut avoir des époques un peu différentes. Et que vous avez trouvé que ces sites étaient en relation. Donc ce qui est un peu étonnant par rapport à ce qu'on sait, nous, de la préhistoire.
Alors en fait, Nice, on pense que c'est les chaises bleues, on pense que c'est le Negresco, on pense que c'est... Pas du tout. Nice est une terre de préhistoire. On a des sites fondamentaux pour la connaissance de la préhistoire, et en particulier le site de Terra Amata, qui date de 400 000 ans, et la grotte du Lazaret, qui date entre 190 000 et 120 000 ans. Donc ça, c'est des sites fondamentaux, extrêmement connus sur le plan international, et qui permettent de comprendre le comportement et le mode de vie des hommes du paléolithique inférieur, du paléolithique correspondant, si vous voulez, aux Homo erectus européens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Homo heidelbergensis, qui sont les hommes qui vont donner, peu ou prou, l'homme de Néandertal.
Alors, on parle de paléofiction, la grotte Chauvet, la grotte de Coscar. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que scientifique? Est-ce que ça aide à la compréhension? Qu'est-ce que ça apporte quelque chose?
C'est toujours pareil. Le regard du romancier est toujours intéressant pour donner à voir, finalement. D'autant plus que les fictions qui se trouvent à la fin de l'ouvrage, puisque vous faites allusion à cela, il y a trois récits fictionnels qui se trouvent à la fin de l'ouvrage et qui ont été réalisés entre les justement en lien entre le romancier et les scientifiques, de telle sorte que l'ambiance, évidemment l'histoire est totalement fictionnelle et c'est le romancier qui l'a imaginé, mais en gros l'ambiance, les outils qu'utilisent les personnages, etc., tout ça a été vu avec les archéologues pour faire en sorte que ce soit à peu près crédible. Donc on a en fait des récits fictionnels qui s'intègrent dans une troisième partie du livre et qui permettent de découvrir le patrimoine autrement.
D'accord. Et alors, si on a parlé des sites, donc quels sites vous conseillez? Moi, j'ai vu, vous avez parlé de ceux de Nice, mais sinon, voilà. Si alors, vous dites, j'ai envie d'aller voir quelque chose, quel site vous conseillez?
Alors, ça dépend où on habite.
Mais dans les Alpes-Maritimes.
Alors, si on habite dans les Alpes-Maritimes, moi, vous ne pouvez pas me demander de conseiller un autre site que le site de Terra Amata, évidemment.
Alors, mais alors, un point là, nous, on connaît le musée de Terra Amata, et vous parlez du site de Terra Amata. Alors, expliquez-nous.
Je vous explique. Le musée, c'est un musée de sites. C'est-à-dire qu'en fait, le site, il a été fouillé en 1966 par Henri de Lumley. Et évidemment, ce qu'il faut savoir, et ça, Eric et Marc vous le diront mieux que moi, mais les archéologues, ce sont des gens qui vont détruire finalement ce qu'ils fouillent. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique l'acte de fouiller un site, il faut savoir que c'est irréversible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fouiller deux fois. Tout objet que vous enlevez, tout sédiment que vous enlevez lors de la fouille, eh bien, vous ne pourrez pas l'enlever une deuxième fois. Donc, quelque part, c'est un acte important. Et c'est pour ça que c'est très réglementé. On en parlera tout à l'heure, je crois. Donc, tout ça pour dire que le site de Terra Amata, lorsqu'il a été fouillé, eh bien, à la fin, il n'y avait plus rien. Parce que c'était d'autant plus important que c'était une fouille de sauvegarde. Il n'y avait pas encore de loi sur l'archéologie préventive en 1966, donc c'était une fouille vraiment particulière. Et pour la préhistoire, malheureusement, nous, on n'a pas de murs, on n'a pas de choses comme ça qui peuvent éventuellement rester et être présentées au public. Les objets préhistoriques, une fois qu'ils sont prélevés, finalement, lors de l'acte de fouiller, hein, lors du chantier de fouille, y a plus grand-chose. Donc c'est pour ça que le site n'est plus visible, mais on a un musée, et dans ce musée, on va trouver les restes, les vestiges qu'ont laissés les hommes préhistoriques. Et en plus, on va trouver des moulages qui ont été réalisés lors de la fouille et qui permettent de se faire une idée de du site en cours de fouille.
Alors, ce n'est pas dans les Alpes-Maritimes, mais j'ai vu un site qui était conseillé, le site de Quinçon. C'est un site très signifiant pour la période.
Alors le site de Quinçon, bien sûr, c'est notamment le site de Quinçon, le musée de Quinçon, que l'on va trouver dans les Alpes de Haute-Provence, et qui est un musée qui s'appelle, de son terme normal, c'est le musée des Gorges du Verdon. Et donc on va y retrouver les sites préhistoriques des Gorges du Verdon, donc notamment un site du Paléolithique inférieur qui est extrêmement important, qui s'appelle la Bombonne, et d'autres sites de ces périodes-là ou des périodes plus récentes, donc du Paléolithique moyen, l'homme, on va dire, de Néandertal, et du Paléolithique supérieur avec les hommes modernes, les Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Alors, et également, je termine, du Néolithique et des âges des métaux, où puisque la dernière partie du musée traite des questions liées aux périodes récentes, c'est-à-dire au Néolithique, au moment, on le disait tout à l'heure, où les hommes deviennent agriculteurs, éleveurs.
Et alors, il y a un musée que j'adore, je pense que vous allez m'approuver, c'est le musée d'Arles. Et comme vous avez dit, vous étiez arlésien, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, le musée d'Arles, j'adore. Sur le plan de la préhistoire, il ne permet le gros du musée, c'est Eric qui va en parler, parce que c'est plutôt l'Antiquité. Oui. Mais il n'empêche que Arles, et plus exactement Fontvieille, à côté d'Arles, est une terre extrêmement importante en matière de préhistoire, parce qu'on a trouvé des hypogées, c'est-à-dire des grottes fabriquées par l'homme, si vous voulez, des sépultures collectives creusées par les hommes, et il se trouve que les hypogées d'Arles-Fontvieille, qui sont présentées dans le musée, dans le tout début du musée, sont un site majeur, parce que, sans équivalent, on a notamment le plus grand hypogée d'Europe, l'hypogée de l'épée de Roland, qui est un site fondamental et extrêmement important, et qui est présenté au musée d'Arles. Mais le musée d'Arles, le gros des troupes, malgré tout, c'est l'Antiquité. L'Antiquité.
Voilà, merci. Nous nous retrouvons après un peu de musique.
Voilà 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pité, Anthropus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un petit os ou d'une prémolaire, confirme que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calpige au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte. Alors que j'habitais un pavillon de banlieue, j'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matin, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était voilà maintenant, il y a 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a plus de retombées.
Bonsoir Michel Murator, nous nous retrouvons pour un alter regard sur des sites, on les appelle comment, archéologiques globalement, c'est le mot générique, c'est archéologique, donc ils sont édités par les éditions Mémoire Millénaire. Alors d'abord Bertrand Roussel, pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Et alors j'ai choisi ce morceau pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup Reggiani. Et la deuxième, c'est que je le trouve très amusant, puisque finalement, il évoque la préhistoire et qu'il évoque des choses qui sont pas éloignées de la réalité. Parce que quand on trouve un fossile humain spécifique, je pensais à l'homme de Totavel, trouvé dans les années 70, et je pense que peut-être ça a été pensé en fonction de ça. Évidemment, on va y prêter une attention toute particulière, comme c'est raconté au début de la chanson. Et puis à la fin, ben, on apprend que finalement, il était comme tout le monde, il avait un pavillon de banlieue. Donc c'est assez marrant et assez amusant.
Merci. Alors, nous avançons dans le temps, et je vous propose maintenant d'arriver à l'Antiquité, donc avec Éric de Laval. Bon, le guide, donc Éric de Laval qui est en studio, mais il faut quand même citer pour le guide Marc Bouiron et Catherine Dureil-Bourrachou. Donc, quand on parle d'Antiquité, on reprécise quelle période ? On le reprécise.
Alors nous, on a retenu la période qui est à partir de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est là où on a les populations qui sont bien constituées, celtiques, et où on a aussi l'installation, l'arrivée des Grecs à Marseille. Et donc ensuite, tout ça va jusqu'à l'indépendance, toute la fin de la période de l'indépendance, quand les Romains conquièrent la Gaule, d'abord le sud de la Gaule, et ensuite il y a la Pax Romana, l'époque romaine, là on va jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une période assez longue.
Et le lien entre la préhistoire et l'Antiquité, donc ce passage d'un à l'autre, comment vous le...
Eh bien c'est le néolithique, alors le néolithique, on considère c'est la fin de la préhistoire. Bertrand a parlé de la sédentarisation et des premiers villages. Et après, on a l'âge du bronze, c'est l'âge des métaux. Il n'y a pas franchement de rupture. L'âge des métaux, âge du bronze, âge du fer, il n'y a pas de rupture. On a des populations, c'est une période où on a des populations qui vont se succéder, s'affronter, à la fois les indigènes, les Celtes aux Ligures, les Grecs de Marseille, et puis après, in fine, les Romains. Mais tout ça, c'est une période très riche.
Et ça va avec la sédentarisation, l'agriculture.
Oui, enfin ça succède effectivement. Ça succède. On a des grands sites celto-ligures, des grands ce qu'on appelle les oppidas, c'est des grands sites de hauteur, parfois en plaine, mais souvent en hauteur, avec effectivement aux alentours un terroir qui est cultivé. Oui.
Accord à côté sur. Alors nous, quand on parle d'antiquité, on a les Grecs et les Romains. Vous avez dit les premiers qui sont arrivés, c'est les Grecs.
Alors, si on parle des colons, voilà. Oui, des colonisateurs, avant, il y avait les Ligures, les Celto-Ligures, les Celtes.
Les Celtes,
donc, on pourrait simplifier en disant les Gaulois.
Ils sont restés jusqu'à quelle époque, là ?
Ils se sont mêlés avec les Grecs se sont mêlés aux Romains, c'est pourquoi on a une ville, par exemple, comme Antipolis, et sans doute Marseille aussi, où il y a un substrat extrêmement important, avec des indigènes, des Grecs, des Romains d'ici, des Romains d'Italie, voilà, c'est ce qui fait la richesse de cette région.
Alors, les Grecs, c'était des colonisateurs, donc j'ai bien compris. Ils arrivaient d'où ? Bon, vous allez dire de Grèce, mais c'était pas la Grèce à l'époque.
Non, ils n'arrivaient pas. Non, c'est pas la Grèce. Ils arrivaient de Phocée, qui était une colonie qu'ils ont fondée en Asie Mineure, donc dans l'actuelle Turquie, qui était une colonie extrêmement, extrêmement riche et qui a été, au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a essaimé un petit peu partout. Et ils sont venus fonder Marseille en 600 avant Jésus-Christ.
Et par vos recherches, vous arrivez à tracer le trajet, comment... parce que, il y a quelques chercheurs qui ont travaillé sur ces sites, au départ, des Grecs, comme ça, pour arriver à tracer leur trajet, quand même.
Sont surtout les trajets maritimes. Mmh. Ce sont les épaves qui permettent ce sont des marqueurs de l'origine des produits, des civilisations. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que les Grecs, les Romains sont passés par tel ou tel endroit.
Et donc, ils ont créé, les villes ont été créées au fur et à mesure, dans ce déplacement en bateau, disons, et après, les villes ont été créées, parce que vous citez une des premières villes, Martigues. Donc, on a créé, le long de la côte, ils ont créé les villes le long de la côte. Il y a Marseille, Antibes. Ouais.
Alors, Martigues préexistait. Hein. Martigues, c'est un oppidum, une cité, justement, qu'on va dire celto-ligure, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, avec déjà un schéma d'urbanisme bien établi, des rues, des îlots, un rempart. Donc ça a préexisté. Et en 600 avant Jésus-Christ, quand Marseille est arrivée, les Grecs ont progressivement créé un certain nombre de colonies le long de la côte pour assurer la sécurité maritime. C'était ça, les Grecs. Donc ils ont créé Antibes, ils ont créé Nice, sans doute assez tardivement, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et ils ont également créé ce qu'on appelle les villes de Marseille, comme par exemple, on a dit, Avignon.
Avignon, qui est plus haut, oui.
Et au début, ils s'entendaient bien, tous ces gens-là, les Grecs s'entendaient bien, certainement, avec les Celto-Ligures, ne serait-ce que pour pouvoir acheminer leurs produits dans l'arrière-pays, enfin, dans ce qui sera ultérieurement la Gaule. Donc, ils concluaient des traités pour... voilà. Donc, cette période-là est faite entre les Grecs et les indigènes, à la fois d'échanges et en même temps de guerres, de combats. Et tout ça va s'aggraver, on va dire, au 4e siècle avant Jésus-Christ, avec de nouvelles migrations celtes.
Et parallèlement, ils ont créé les routes, alors, pour acheminer vers l'intérieur
Alors, les grandes voies, pour l'époque grecque, on les connaît pas plus que ça. Ce sont surtout les Romains qui sont connus pour avoir créé des routes. Et le long de ces routes, ils ont créé des villes qui sont autant de points d'ancrage pour la conquête.
Oui, donc après, les Romains, c'était pour chasser les Grecs, leur objectif.
Non, c'était pas pour chasser les Grecs, c'était pour c'est une expansion commerciale et militaire. Oui. C'était aussi pour pouvoir assurer la continuité entre l'Italie et l'Espagne. Donc la Provence était là, les Grecs étaient en bordure dans les cités le long de la mer. Et bon, voilà, c'était pas forcément pour chasser jusqu'au moment où il y a eu effectivement la guerre civile entre César et Pompée à Rome. Et à ce moment-là, Marseille a fait le choix malheureux de Pompée. Et à ce moment-là, les Romains ont définitivement pris le dessus sur Marseille, sur les Grecs et sur leurs colonies. Parce que Marseille va perdre la grande partie de ses colonies.
Oui, donc en fait, les Romains, ils n'ont pas remplacé les Grecs, mais une colonisation, c'est toujours un problème par rapport aux habitants existants.
C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Mais après, quand on se place un peu plus tard, par exemple, une ville comme Antibes, on retrouve très rapidement, il y a une romanisation, autant il y avait des noms grecs avant, quelques-uns, mais très vite, les structures administratives, les noms des gens, on trouve qu'il y a une romanisation extrêmement rapide. Quoi. Donc c'est une espèce de syncrétisme s'opère difficilement, mais qui finit par s'opérer.
Ben j'ai l'impression qu'en fait, on connaît mieux l'Antiquité, les sites, qu'au niveau de la préhistoire.
Ah ben, est-ce que c'est... Oui, alors, Bertrand pourra répondre. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une empreinte romaine en Provence qui est extrêmement forte et précoce, et qui a laissé des monuments spectaculaires, hein, qu'on connaît, les amphithéâtres, les théâtres d'Orange. Il y a aussi donc les vestiges sont... de manière plus solide, plus pérenne que les vestiges de la préhistoire dont Bertrand nous a parlé tout à l'heure. Et puis il y a aussi qu'on a étudié l'Antiquité bien avant d'étudier la préhistoire et la protohistoire. Je me trompe. Enfin, en tout cas, c'est une discipline qui est plus récente, la préhistoire.
Oui, puis il y a un phénomène important, c'est que pour la préhistoire, on n'a pas de texte. Donc les textes, ça va nous permettre, si on sait par exemple la fondation de Nicaïa, on ne le sait pas tellement par les données de l'archéologie, puisque Nicaïa, on ne l'a pas encore bien retrouvé. En revanche, on le sait par des textes qui sont connus et qui nous permettent d'évoquer ce genre de choses. Donc les textes sont importants et malheureusement, enfin si on peut dire, mais c'est la loi du système, la préhistoire n'a par définition pas de texte. Donc c'est vrai que ça la rend parfois un petit peu plus obscure. Voilà. Notamment, ça nous empêche d'avoir des hommes célèbres. Et pensez, le type qui a découvert le feu, c'était un Einstein de l'époque, mais pourtant, ce n'est pas son nom.
Voilà, oui, donc oui. Nous, pour prolonger ces textes, effectivement, j'allais y venir, donc on a les textes de l'Antiquité, de Polybe, Hérodote, Strabon, etc. Mmh. Et ces textes ont été recopiés au Moyen-Âge, et ça a permis qu'ils perdurent et qu'on les connaisse aujourd'hui. C'est extrêmement utile.
Alors, sur les musées, donc les musées qui existent, ils sont, à part, je dirais, Terra Amata, qui est vraiment ciblé sur la période préhistoire, mais sinon, la majorité des musées, c'est à la fois la préhistoire et l'Antiquité. Alors, il y a des musées vraiment plus dédiés, plus...
Alors, il y a beaucoup de musées, encore une fois, c'est lié à l'omniprésence de la civilisation romaine. Il y a des musées dans toute grande ville aujourd'hui, il y a des grandes chances de succéder à une ville romaine, d'être à l'emplacement d'une ville romaine. Donc, il y a un musée. Les musées sont liés aux collections, aux objets qui sont là. Donc, on a beaucoup de musées sur l'Antiquité romaine, à Cimiez, à Antibes, à Fréjus, par exemple, Aix-en-Provence. On pourrait égrener tous les noms sur toute la bordure du pourtour méditerranéen, mais on a aussi quand même donc musée de préhistoire, on a les musées de proto-histoire quand même, où on parle des Gaulois, je pense à Martigues, le musée de notre collègue à Martigues, et puis après il y a des musées selon l'origine de leur collection qui sont des musées plus généralistes, qui peuvent traiter un peu de toutes les périodes, selon les collections retrouvées, les objets retrouvés sur place ou les donations, quoi. Les gens viennent donner des objets au musée. Donc on peut avoir à la fois de la préhistoire, de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Mais les musées consacrés à l'Antiquité romaine sont particulièrement nombreux, oui, effectivement.
Beaucoup plus qu'effectivement qu'à l'archéologie.
Par exemple, comme musée un petit peu pluridisciplinaire, vous avez Saint-Raphaël, où on va trouver à la fois de belles collections de préhistoire, puis en même temps de magnifiques collections liées à l'archéologie sous-marine.
Musée qui va être refait dans les années à venir. Il y a un programme scientifique et culturel. Je fais une petite parenthèse pour notre collègue Anne Joncheret. Et donc, ça sera vraiment. Ça va bonifier les collections de ce musée et le parcours des visiteurs.
Ah, ben c'est bien. Donc, alors, quel site vous conseillez ? On sort des sentiers battus, de ceux où on va tout le temps, effectivement. Vous conseilleriez quel site d'aller voir ?
Alors, je ne sais pas ce que vous appelez les sentiers battus, parce que même les sentiers battus ne sont pas si battus que ça. Donc, alors, si on reste dans les Alpes-Maritimes, il faut aller voir, évidemment, alors, ces sentiers battus. C'est le trophée de la Turbie qui, qui marque la victoire d'Auguste et presque sa divinisation, victoire sur 46 peuples des Alpes. C'est quand même assez spectaculaire. On en parle, mais je ne suis pas sûr que tout le monde aille le voir. Après, il y a des petits sites à la campagne, parce que la civilisation romaine, c'est aussi la campagne. On parle beaucoup des villes, mais donc il y a des petites villas romaines, ou en tout cas des établissements ruraux qui sont intéressants à visiter. Je pense, pour la période romaine aussi, on a, par exemple, ce qui m'a bien plu, alors on s'éloigne des Alpes-Maritimes, le pont romain de Saint-Chamas. C'est un pont qui a été construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ par un particulier. Donc on a son nom. C'est un pont qui fonctionnait comme un péage. Il faut savoir que dans l'Antiquité, c'est pas rare que des particuliers offrent des spectacles dans l'amphithéâtre, voire même des monuments. Et donc ce notable romain avait offert le pont Flavien de Saint-Chamas, qui est très bien conservé, avec les deux arcs à chacune des extrémités.
La question,
il y en a
c'est
plein
la...
d'autres. Hein.
Il y en a plein d'autres. Et comme musée,
faut lire
alors,
le guide. Voilà, faut se faire son guide soi-même.
Oui, et pareil pour les musées. Donc vous dites, donc c'est quoi Fréjus ? Non, c'est Raphaël. Vous avez parlé là qui va être refait, qui est important. Donc c'est vrai que c'est pas très connu.
C'est vrai. En plus, il est dans le cadre de l'église. C'est très beau. Il y a la crypte à visiter. Après, sur les musées. Voilà, bon, il y a le musée de mon collègue. Voilà. Merci, tu m'as ôté les mots de la bouche. Il y a le musée de Cimiez, formidable, qu'il faut coupler avec le visite du site, parce que on a parlé quand même on n'a pas parlé du site. Là, il va rougir. Mais le site de Cimiez, quand même sur les Alpes-Maritimes, c'est le plus bel exemple de quartier romain, en tout cas pas dans toutes ses composantes, mais pour la panoplie monumentale, c'est exceptionnel. On a des thermes extrêmement bien conservés, dont une salle froide des thermes qui est conservée presque jusqu'à la toiture. Donc c'est vraiment à visiter. Alors il y a l'amphithéâtre aussi.
Mais il faut aller à Antibes aussi.
Oui, Antibes, oui. Merci. Voilà, tout à fait. Merci.
Alors les vestiges, il y a moins de vestiges à Antibes parce que ça a été beaucoup plus urbanisé, Antibes. Mais alors les vestiges sont dans les sous-sols. Il faut lire là aussi les publications qui ont été faites. Et il y a le musée d'archéologie, évidemment. Et les musées sont faits pour ça. On va peut-être en reparler. Tout à l'heure, Bertrand disait que... On peut pas tout voir, quoi, avec les silex. On peut pas tout voir de la préhistoire, mais ils ont quand même Lascaux. C'est un grand site qu'on peut voir, même si c'est un. Et on peut pas tout voir non plus des vestiges de l'Antiquité. On peut pas tout laisser sur place. Donc les musées sont faits notamment pour ça.
Alors, en ville, disons, c'est plus compliqué, parce que vous le disiez, en fait, il y a plusieurs strates qui se croisent, donc là, pour identifier les périodes, il n'y a pas de souci. Enfin,
c'est une technique. L'archéologue, c'est quelqu'un qui est un technicien. Bertrand ne me démentira pas là-dessus. Il faut savoir fouiller, il faut savoir reconnaître l'histoire des couches archéologiques. Mmh. Il y a cette belle image que j'aime bien, c'est que l'archéologue, c'est comme c'est quelqu'un, il fouille, et comme il prend, c'est quelqu'un qui prend un livre à partir de la dernière page. C'est la fin. Il connaît la fin. Et il va descendre progressivement, et une fois qu'il sera au bout, il pourra reconstituer le livre depuis le début. Mmh. Et ben, c'est ça, l'archéologie. Donc, c'est une technique. Donc, c'est à la fois quelqu'un qui a des connaissances de terrain, et c'est aussi évidemment un scientifique qui est capable d'aller en bibliothèque et de mettre ses fouilles et ses recherches en perspective.
Alors, on parlera de l'INRAP après avec Marc, puisque c'est vraiment son domaine. Oui. Mais moi, j'ai une question pour Antibois, pour Antibes, qui est d'actualité. Les aqueducs, vous imaginez bien que comment. Et puis, une question qui me tient à cœur, bon, vous le savez, c'est comment on montre. On a l'impression, que ce soit la préhistoire ou que ce soit l'archéologie, tout ça, qu'en fait, les scientifiques, ils se gardent ça pour eux. Alors, moi, j'ai toujours cette préoccupation de comment le citoyen lambda, ben, on lui montre, on lui permet de s'approprier aussi
c'est alors Michel,
tout ça.
C'est pas à deux conservateurs de musée que vous allez dire qu'on s'occupe pas de vulgariser notre travail.
Non,
on
n'est
pas des chercheurs, on n'est pas des chercheurs dans notre bulle. Alors, il y a des sites. Les sites, on peut pas, comment dire, montrer les sites partout. C'est pour l'époque romaine. Si on dégageait tous les sites et qu'on les laissait à l'air libre, on vivrait dans des ruines. Mmh. Excusez-moi, hein, c'est un peu caricatural, mais bon. Donc, parfois on préserve, mais encore une fois, on n'a pas une grotte de Lascaux tous les jours. On n'a pas des choses, dans le sous-sol. Alors après, vous parlez de ce qui est visible, des vestiges visibles comme les aqueducs. Eh bien, les aqueducs, ils bénéficient tous ces monuments de protection au titre des monuments historiques. Ils sont soit inscrits à l'inventaire des monuments historiques, soit carrément classés s'ils ont un intérêt national. Et là, y a des travaux qui sont effectués. Et pour pérenniser ces monuments, donc il y a des travaux actuellement sur l'aqueduc de la Bouillide à Antibes. Et après,
qui est mis à mal par la nouvelle route qui se fait à côté.
Je pense que ça a été pensé quand même.
Oui, mais
on peut pas. Mais, effectivement, mais il faut concilier à la fois le développement de l'urbanisme et les circulations avec ce patrimoine. Donc, une fois que cet aqueduc sera restauré, qui est très bien conservé, puisqu'on a trois ouvrages d'art, on retrouve cet aqueduc dans le livre. Une fois qu'il sera restauré, bien évidemment, il y aura un parcours, une signalétique et un parcours de visite. D'autant plus qu'on se trouve à une des entrées du parc régional de la Brague. Voilà, donc on concilie, c'est pas que pour les scientifiques, chaque fois qu'on peut, on vulgarise nos travaux dans le bon sens du terme. Mais il faut d'abord songer à la pérennisation de ces monuments.
Moi, ça me paraît important quand même d'impliquer le citoyen dans tout ça. Donc, on rappelle les guides. Donc, il y a trois guides. Le guide des sites antiques, le guide des sites préhistoriques et le guide des sites de l'Antiquité au Moyen-Âge. Ces guides, c'est les éditions Mémoire millénaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ces éditions qui sont locales, en plus, ça, ils sont ici.
Les éditions Mémoire millénaire, c'est une maison d'édition qui a été fondée il y a une quinzaine d'années par Frédéric Boyer et qui se donne pour objectif d'évoquer le patrimoine régional, à la fois de Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus précisément des Alpes-Maritimes et aussi beaucoup des Bouches-du-Rhône et du Var, autour à la fois de fiction, mais surtout de livres qui peuvent être des guides, qui peuvent être des beaux livres, qui peuvent être des livres pour enfants, avec toujours cette volonté, cette ambition d'évoquer le patrimoine régional.
J'ajouterais juste un petit mot, c'est un patrimoine, des patrimoines un peu au sens large, puisqu'on a aussi patrimoine naturel, des livres sur le patrimoine naturel, des livres sur le patrimoine culinaire. Donc c'est vraiment les patrimoines au sens large.
Donc c'est des éditeurs que l'on conseille de regarder. Moi je vois là les niches, la colline du château, les objets d'Antipolis, là auxquels vous avez dû participer, j'imagine. Voilà. Donc vous avez d'autres livres, d'autres à citer?
Bon, il y a une bibliographie à la voilà, fin de, oui. de chaque ouvrage. Alors, je pense que bon, on va peut-être pas la détailler, mais oui. Voilà, c'est à chacun de découvrir et d'y puiser le complément à sa visite.
Et nous passons donc de l'Antiquité au Moyen-Âge avec Marc Bouilleron. Alors Marc Bouilleron qui est au téléphone, mais il faut citer aussi donc Catherine Dureil-Bourrachaud, Michel Fixot et Jean Guyon qui ont participé à la rédaction de ce guide. Donc Marc Bouilleron, vous pouvez vous présenter.
Oui, bonjour. Ben écoutez, voilà, je suis archéologue. J'ai été archéologue à la ville de Marseille, à Nice également pendant 10 ans et désormais directeur scientifique et technique de l'INRAP, donc cette fois-ci à un niveau national, mais toujours dans l'archéologie. Et donc effectivement, nous avons réalisé le guide, donc qui prend la suite des autres guides que vous avez présentés et qui porte sur la période qui comprend la fin de l'Antiquité et puis une première partie, on va dire, du Moyen-Âge.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter l'INRAP quand même, parce que c'est quand même important?
Alors, l'INRAP est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. C'est un institut qui dépend du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et qui intervient comme un acteur national pour faire de l'archéologie préventive, c'est-à-dire celle qui est liée aux travaux d'aménagement du territoire. Donc, on réalise aussi bien les diagnostics, c'est-à-dire les premières investigations pour vérifier la présence ou l'absence de vestiges archéologiques et puis ensuite, s'il y a lieu, des fouilles en concurrence avec d'autres opérateurs publics comme les collectivités territoriales ou privées.
Et donc l'IMRAP intervient, parce que si je fais des travaux, il y a obligation de faire une déclaration à l'INRAP pour des travaux qui seraient faits privés
c'est
ou
pas
publics.
L'INRAP, la déclaration et tout ce qui est, on va dire, la procédure avant l'intervention sur le terrain relève des DRAC, des directions régionales des affaires culturelles. Donc c'est le ministère de la Culture en région qui va prescrire ou non une première opération de diagnostic. Alors ça dépend des zones, parce qu'il y a des zones sur lesquelles on sait qu'il y a des risques archéologiques assez forts, donc il y aura une prescription, et puis d'autres endroits où il peut très bien ne rien y avoir. Et puis en fonction du diagnostic qui est pris en charge, en fait, il y a une redevance qui est payée par l'aménageur, mais sinon le reste est pris en charge de manière publique, on va dire. En fonction des résultats du diagnostic, s'il y a des vestiges archéologiques et si la construction doit détruire ces vestiges, à ce moment-là, il y a une fouille qui est prescrite également par la DRAC, Service Régional d'Archéologie. Donc nous, INRAP, on intervient en fonction de ce que les services de l'État décident, mais c'est pas l'INRAP évidemment qui décide si on fouille ou si on ne fouille pas.
Et c'est l'aménageur qui ça fait partie des déclarations obligatoires? Comment ça se passe? Parce que on voit des travaux.
Tout à fait.
Ben
alors, quand il y a un dépôt d'un permis de construire, par exemple, ou diverses procédures d'urbanisme, les services de l'État sont saisis automatiquement et peuvent donc émettre une prescription de diagnostic. Et donc là, évidemment, après, il y a des discussions avec l'aménageur. Donc les diagnostics, c'est du service public, donc c'est ou l'INRAP ou les services de collectivité territoriale qui interviennent. Et puis ensuite, pour la fouille, il y a un appel d'offres, et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus lourd, parce que c'est forcément c'est l'emprise normalement liée à la construction. Mais tout ça se fait donc en relation étroite, évidemment, entre l'aménageur, le service de l'État, et puis ensuite l'opérateur qui intervient pour faire les interventions sur le terrain.
Alors, il est financé, parce que j'ai vu que c'est pour 2024, 0,68 euros du mètre carré, donc c'est l'aménageur qui va participer, qui va payer. Est-ce que ça permet à l'INRAP de vivre, ou il y a aussi des fonds publics, vous disiez, pour compléter?
Alors là, depuis quelques années, le budget de l'INRAP est déconnecté de la redevance. C'est-à-dire que la redevance d'archéologie préventive, vous le citiez à 0,68 euros, va rentrer dans les caisses de l'État. Et l'INRAP a un budget annuel, donc qui est sur les crédits de patrimoine du ministère de la Culture, qui permettent les interventions des diagnostics archéologiques. Mais il y a une part aussi qui revient aux collectivités territoriales qui réalisent ces diagnostics archéologiques sur leur propre territoire. Donc ça, c'est financé par de l'impôt, hein, quelque part, enfin la redevance en tout cas, et ensuite, donc c'est une action publique. En revanche, la fouille archéologique, donc une fois qu'on a fait cette expertise initiale qu'on appelle le diagnostic, la fouille archéologique, elle, est financée à 100% par l'aménageur, Il y a des cas malgré tout où un fonds national d'intervention, donc s'appelle le FNAP, qui est spécialisé sur l'archéologie préventive, peut intervenir. On imagine par exemple un propriétaire privé qui fait construire sa villa peut accéder à ce fonds de manière à ne pas avoir la charge entière d'une fouille qui parfois peut être assez importante.
La question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce que il se passe après par rapport à tout ce qu'on aurait trouvé?
Alors, quand on réalise la fouille archéologique, on récupère ce qu'il y avait dans le sous-sol, c'est-à-dire en particulier le mobilier archéologique, ça va être des morceaux d'objets, des ossements éventuellement, s'il y a des fouilles de cimetière ou autre. Tout ça va être prélevé, va être gardé dans des dépôts archéologiques. Et puis en parallèle, surtout, on va réaliser un rapport d'opération. C'est-à-dire que quand on fouille, on commence toujours par la surface, donc le plus récent, et on va vers le plus ancien. Mais c'est évidemment pas l'ordre naturel historique, on va dire. Donc une fois qu'on a tout fouillé, on passe dans une phase où on libère le terrain, qui peut du coup servir à la construction. Et nous, on va en laboratoire et on va analyser tout ce qu'on a retrouvé pour faire un rapport qui, cette fois-ci, va réécrire l'histoire du site du plus ancien vers le plus récent. Voilà. Et quand on rend ce rapport, ça termine l'opération archéologique. Un exemplaire de rapport est transmis à l'aménageur et ça passe devant une commission scientifique, on va dire, qui examine le rapport. Et donc ensuite, c'est à la disposition des chercheurs pour continuer. Alors, je ne sais pas moi, si on a fouillé une villa gallo-romaine, ça va intéresser certains spécialistes de ce type de construction. Si c'est un village médiéval, si c'est un site préhistorique. Voilà. Donc chaque spécialiste va pouvoir ensuite utiliser les données. Et le principe, c'est que ce patrimoine qui disparaît, parce que quand on fouille du coup et quand on construit, on va détruire une partie, ce patrimoine est enregistré, on en garde la mémoire et du coup il peut être exploité et on peut réécrire l'histoire des territoires grâce à ces opérations archéologiques. Et là, on vient d'ailleurs de réaliser un atlas archéologique de la France avec Dominique Garcia qui montre justement l'ensemble des informations qu'on arrive à acquérir grâce à ces opérations d'archéologie préventive qui sont faites un peu au hasard parce que liées à des constructions actuelles et pas à ce qu'on imagine des sites anciens, qu'ils soient préhistoriques ou plus récents.
Alors, on revient au Moyen-Âge. On dit que le Moyen-Âge, c'est la transition entre l'Antiquité et la Renaissance. Donc, comment vous datez donc le Moyen-Âge là?
Alors, traditionnellement, on va dire, le Moyen-Âge commence à la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476 de notre ère, et se termine avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Donc ça, ce sont des termes, une chronologie, on va dire, qui est assez théorique et qui ne correspond pas évidemment à la réalité, sachant que comme tout cycle de vie ou d'évolution de société, tout se fait par transition douce et de manière relativement progressive. Donc on a déterminé dorénavant plutôt une période qu'on appelle l'Antiquité tardive, qui va entre le 4e et puis le 7e siècle de notre ère, qui est une période, en tout cas pour la Provence, qui est une période pendant laquelle l'Antiquité se poursuit avec des modes de société et des façons de vivre qui sont encore assez proches de ce qui existait sous l'Empire romain, même si l'Empire ensuite disparaît. Et progressivement, on passe dans autre chose, on passe dans la féodalité en particulier, à partir du 10e siècle, et on va avoir donc une société différente qui poursuit son histoire, on va dire, avec des manières de vivre qui évoluent, avec des châteaux, avec des milieux urbains qui sont assez différents de ce que l'on connaissait dans l'Antiquité.
Donc le Moyen-Âge, vous dites, il est subdivisé en fait en trois parties, le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et le Bas Moyen-Âge, c'est ça, je dis pas n'importe
Alors,
quoi.
On peut le subdiviser comme ça, effectivement. On va dire que le bas Moyen-Âge, c'est les deux derniers siècles, hein, c'est le 14e et 15e siècle, donc jusqu'en 1500, grosso modo. Hein, et puis un Moyen-Âge un peu central autour du 11e au 13e siècle, et un haut Moyen-Âge, donc qui est la période la plus ancienne du Moyen-Âge, qui fait suite à cette antiquité tardive, et c'est le moment où on a les royaumes mérovingiens, puis carolingiens, donc et l'empire de Charlemagne, donc qui recompose ce qui était auparavant l'empire romain, mais en incluant toutes les zones de Germanie et de l'Allemagne actuelle et au-delà.
Et le guide aborde les trois périodes ?
Non, le guide se concentre sur la période qui va du 5e au 11e. Parce que d'abord, en Provence, on a la chance d'avoir énormément de sites archéologiques et de sites historiques de cette période. Et on ne pouvait pas traiter l'ensemble du Moyen-Âge, à moins de faire un guide qui soit vraiment, on va dire, trop généraliste par rapport à l'objectif de la collection. Et donc, du coup, on a subdivisé, on a pris la fin de l'Antiquité, donc le dernier siècle de l'Empire romain, on va dire, d'Occident, et puis cette transformation du Moyen-Âge jusqu'à inclure l'an 1000, c'est-à-dire le moment où on commence à construire avec l'art roman et avec d'autres formes de construction et dans un autre type de société, mais en laissant de côté le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge qui nécessiterait d'autres ouvrages.
D'accord. Alors est-ce que vous pouvez citer quelques sites et musées que vous conseillez aux auditeurs ?
Alors, bah, écoutez, tout bien, tout honneur, puisque vous avez avec vous Bertrand Roussel, je conseillerais évidemment le musée de Nice, hein, le musée de Cimiez, qui est un musée archéologique, qui est un musée alors qui est connu et avec un site archéologique qui est connu pour la période antique, pour la période romaine. Mais la ville de Cimiez, donc qui est distincte de Nice, hein, dans l'Antiquité, ce sont vraiment deux cités totalement différentes. La ville de Cimiez disparaît au cours du Haut Moyen-Âge, et donc il y a toute une période, les premiers temps chrétiens, et puis du 5e au 7e siècle en particulier, où la ville est encore florissante, et avec des vestiges qui sont présentés à la fois sur place avec les vestiges de l'ancienne cathédrale, son baptistère, mais également évidemment dans le musée. Donc ça c'est un lieu important, et c'est un lieu qui montre bien justement cette continuité de l'Antiquité jusqu'à une période assez avancée, jusqu'au début du Moyen-Âge. Et puis, vous avez vers Fréjus, vers Saint-Raphaël aussi, des lieux qui sont assez emblématiques, ou même Vence, avec des cathédrales qui ont été bâties durant l'Antiquité tardive, qui ont été reconstruites ensuite à partir du XIe siècle, alors parfois même bien au-delà, hein, qui ont eu des transformations jusqu'à l'époque moderne, mais dans lequel on a encore des vestiges de ces édifices anciens, soit réemployés, je pense à la cathédrale de Vence, où on a des décors sculptés dans la pierre qui datent de l'époque carolingienne, donc du 8e, 9e siècle, et puis encore des restes voilà, d'élévation de cette architecture romane, qui est une des caractéristiques d'ailleurs de la Provence par rapport à ce qu'on connaît dans le nord de la France, où le gothique va se développer assez tôt et assez largement.
Alors on arrive à la fin de l'émission. Alors j'ai reçu l'information, alors c'est plus vers Marseille, les Marseillais, mais pour une conférence, oui. Marseille au Moyen-Âge, le jeudi 8 février, à laquelle vous allez participer. Et il y a toute une série donc, de conférences qui sont organisées par le musée Terra Amata et le musée d'archéologie de Nice. Et donc, on trouve toutes les informations sur le site du musée. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Aux auditeurs, et ben, je vous retrouve dans un mois pour un autre Alter Regard.